marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
En tout cas, c'est vachement beau comme endroit. Hein.
La Drône, histoire d'une rivière avec sa moule perlière.
J'arrive sur l'ouest du Massif central et là, je déplie une carte et je repère une rivière, la Drône. Je descends au bord de la rivière, dans une zone en gorge, magnifique, avec des arbres très très vieux, des arbres morts, et une rivière absolument somptueuse, avec des grosses pierres, des gros rochers de granit. Je cherche des libellules, des traces de loutres, des traces de poissons, etc. Je tombe sur une espèce, je la sors. C'était elle, c'était la moule perlière.
Nous allons suivre aujourd'hui Élisée Reclus, le grand géographe libertaire qui disait que quand on montait dans un arbre, quand on s'asseyait sur une branche et qu'on agitait les pieds dans le ruisseau, eh bien on pouvait transformer la vie d'imperceptible poisson ou d'imperceptible vivant. Il avait vécu son enfance les pieds dans l'eau, lui, de la Dordogne, et la Drône, c'est un sous-affluent de celle-ci. Elle naît au sud du parc naturel Périgord-Limousin. Très vive au départ, elle s'élargit ensuite dans les plaines qu'elle fertilise et son cours est de 200 km. La meunerie de la région, on parlait de moulins avec Bruno Duvic, ses papeteries, son industrie du feutre doivent beaucoup au réseau hydrographique. On se souvient peut-être que la pantoufle charentaise, par exemple, était largement fabriquée dans le département de la Dordogne. Aujourd'hui, le mot d'ordre est la préservation de la biodiversité des rivières. Or, la Drône est le dernier refuge significatif pour la moule perlière, Margaritifera, il faut le dire deux fois, Margaritifera. On se souvient peut-être que Marie de Médicis, au début du XVIIe siècle, arborait une robe ornée de 32 000 perles issues des rivières européennes, alors que Margaritifera ne produit qu'une fois sur mille une perle de nacre utilisable. Et sait-on que depuis 100 ans, 99% des moules perlières ont disparu. Donc la réserve de la Drône est jugée inestimable. Les larves de la moule ne pouvant croître qu'à l'abri de la truite Fario, il a été décidé d'assurer toutes affaires cessantes sa libre circulation. Une vingtaine de barrages accompagnant les moulins lui font obstacle, retiennent des eaux stagnantes. Adieu, barrage! Le débat court le long de la Drône, mais il concerne aussi bien d'autres rivières où la renaturation est présentée, je cite un document que j'ai lu au bord de la Corrèze à Tulle, comme une exigence environnementale, sociale et sociétale.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Christian Magne, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes connus à Nontron, où vous animez, c'est une sous-préfecture de la Dordogne, là. Un pic granitique au-dessus du calcaire où vous animez un festival de la chevêche. Chevêche, c'est la chouette, c'est la chouette de l'histoire.
Oui, c'est une toute petite chouette qui est en grande difficulté aussi de survie et qu'on trouve pas mal en Dordogne.
Alors vous animez aussi une organisation qui existe dans la région, mais aussi dans la France depuis plus longtemps, depuis un quart de siècle. Le CPIE, c'est un vaste dispositif de formation, notamment pour la jeunesse locale.
Oui, sont les CPIE, ça veut dire Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Il y en a 80 en France, dont le mien, celui du Périgord-Limousin. Et on fait énormément d'éducation à l'environnement, de sensibilisation. Hein, on essaye de sensibiliser. On croit à la sensibilisation, on croit encore, même si certains politiques... démissionne. Nous, on croit qu'on peut encore sauver la planète. C'est pas facile, mais on pense que ça peut passer par l'éducation. Donc, on fait de l'éducation à l'environnement et aussi du développement local, durable, comme 80 CPI en France.
Alors, vous travaillez avec le musée des tisserands et de la pantoufle de Varennes, un lieu extraordinaire où sont exposées les pantoufles tricolores qui ont été offertes à François Mitterrand au moment de son départ, mais où on peut aussi, quand on est gosse, travailler sur les métiers qui fabriquaient les pantoufles. Et j'ai oublié de dire que vous étiez ethnologue de formation.
Oui, c'est ça. Je commençais par m'intéresser au savoir-faire. Je suis arrivé à l'écologie, à l'environnement, à travers l'usage des ressources naturelles. Et il se trouve que la Charentaise utilisait la laine locale, utilisait l'énergie hydraulique, les moulins, hein, tout comme les forges, tout comme toute cette industrie du passé, mais qu'on redécouvre aujourd'hui.
C'est la région de votre enfance et vous êtes allé, quand vous étiez enfant, jusqu'à la source de la Drône ?
Bien sûr, tout à fait au nord du département, en limite de Haute-Vienne. C'est en Haute-Vienne d'ailleurs, parce que la Drône, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais traverse 5 départements. Elle prend sa source sur les socles du granit, hein, sur le granit, hein, le socle du Massif central, le contrefort du Massif central, en Limousin. Puis elle va traverser la Dordogne, un petit peu un morceau de Charente, un morceau de Charente-Maritime, pour arriver en Gironde, à Coutras, où, où elle aura sa confluence avec la rivière Lille, avant de rejoindre enfin la rivière Dordogne, le fleuve Dordogne presque, puisque pas loin on a la Gironde et l'estuaire de la Gironde.
Comparé à l'océan, la rivière des montagnes n'est rien, et cependant ses eaux, divisées à l'infini, se retrouveraient dans toutes les mers et sur tous les rivages, s'il était possible, au regard, de les suivre dans leur circuit immense. Élisée Reclus, histoire d'un ruisseau. Cette émission nous a permis de lire Élisée Reclus, enfin.
Enfin, oui, c'est la première fois que je lis entièrement un livre d'Élisée Reclus. J'ai trouvé très intéressant, parce qu'il a un regard à la fois de géographe, mais aussi on sent l'anarchiste, hein, qui pointe derrière. Il évoque notamment le rôle des usines, et aussi il voudrait essayer de dompter les fleuves. À cette époque-là, c'est marqué dans l'histoire, ça marque l'histoire, mais c'est aussi très moderne par certains aspects. Notamment, on dit que c'est un des premiers ouvrages d'écologie, hein, puisqu'il a une sensibilité extrême, hein, c'est de la littérature. C'est un géographe qui fait de la littérature. C'est assez étonnant, je ne le connaissais pas alors qu'il est du département, il est en limite, hein, entre la Gironde et le département.
Et gamin comme vous, alors il a fréquenté une rivière, lui c'était la Dordogne. Il était casse-cou, hein, il allait dans les grottes.
Ah, il osait, mais ça on l'a tous fait.
Dans les ravins, on l'a tous fait.
Oh oui, ça j'ai fait bien pire que lui, je pense, pour aller voir justement ce qui se passait, ce qu'on ne voit pas. Parfois, dans les grottes en particulier.
Ah, vous avez fait les grottes?
Ah, on a beaucoup, beaucoup. Oui. Je me suis baladé pas mal en Dordogne. On a la chance d'avoir des grottes, des sources, des résurgences. C'est toujours intéressant d'aller voir d'où vient l'eau quand elle coule, la source.
Et puis, combien d'endroits où se baigner? Qu'il est agréable de se faire triton. D'ailleurs, il n'est pas indispensable d'avoir 15 ans pour s'ébattre avec bonheur dans l'eau, comme dans son élément. C'est toujours Élisée Reclus. Chacun de nous, si les conventions et les faussetés de la vie ne l'ont pas encore corrompu, peut retrouver les joies de sa jeunesse en laissant ses habits sur la berge. Je suis encore enfant quand je m'élance dans le ruisseau bien-aimé. Et un peu plus tard, adolescent.
Ah, ça fait mal aux pieds, tous ces cailloux, là. En tout cas, c'est vachement beau comme endroit. Hein.
Viens voir, c'est encore mieux là-bas.
Comment tu te connais, quoi?
Ah, c'est mon frère. Il y allait avec des copines. Tu sais, l'hôtel c'est cher, puis il ne sait pas trop les ramener à la ferme. Il paraît que le paysage, ça faisait craquer. Comme ça, elle sait faire.
Elle vient pas, Maïté? Elle est en train de se changer. Oh, Maïté, tu penses que c'est bien par ici?
Oui.
Alors pourquoi tu mets pas ton maillot?
Je crois que j'ai pas envie.
Ah non, tu vas pas faire de manière. Allez, viens.
Ah non, François, ça suffit, me demande pas ça.
Tu vas quand même pas rester là, toute seule, toute la journée.
Pourquoi? C'est joli comme endroit, tu trouves pas?
Non, mais t'es folle ou quoi?
Les roseaux sauvages d'André Téchiné. Un souvenir de baignade d'adolescence, c'est pas la même chose que la piscine, ni même que l'étang.
C'est complètement différent. D'ailleurs, Reclus en parle très très bien. C'est un peu plonger dans une rivière, c'est plonger dans un monde différent. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec une piscine. Mais ça n'a rien à voir aussi avec la mer ou avec des lieux plus fréquentés. La baignade sur la Drône, on peut se baigner dans 3-4 endroits et c'est à chaque fois un peu mystérieux. On plonge dans un autre monde et c'est très 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 motivant de prendre ce risque. On a l'impression de prendre un risque et ça c'est d'extrêmement bons souvenirs. Après, en Dordogne, il y a beaucoup d'étangs aussi, hein, on va en parler je pense tout à l'heure, mais ces étangs sont des lieux de baignade très très fréquentés. On retrouve, on a l'impression, hein, moi j'ai connu les étangs, notamment l'étang de Saint-Estève, pas très loin de Nontron, dans les années 80, où là, il y avait très, très peu de monde, finalement. Et aujourd'hui, là, ce sont des... on redécouvre cette nature-là.
Alors, c'est avec ses pères, P-A-I-R-S, ou avec des jeunes filles, qu'on va se baigner. Et avec son père, peut-être, qu'on va pêcher.
Oh, excellent! Il y a des herbes. Et quand il y a des herbes, il y a du gros. Jackie, prépare l'épuisette. Qu'on ne soit pas surpris. Bon. Ça s'annonce pas mal, tout ça.
Oh, et quoi ça?
Où?
Bah, dans l'eau.
Non. Oh, si j'avais été frais, tiens. Mais viens maintenant, viens. Mais tais-toi, hein. Silence, c'est sérieux. Les poissons nous entendent, tu sais. Allez, viens. Viens, dépêche-toi, voyons. Donne-moi une cuillère, là. Dans la boîte, là. Non, c'est une bijou, c'est une cuillère, une trapue. Là, celle-là. Ah, vraiment, alors, toi, tu t'y connais pas beaucoup, là, la pêche.
De Bourville à Reclus, le tranquille pêcheur à la ligne derrière lequel l'araignée tend paisiblement ses filets entre les branches, il ne se lasse point. En s'asseyant au bord de l'eau, il a laissé derrière lui les passions humaines de l'impatience et de la colère. Avec votre père, vous pêchiez?
Oui, sur la Dronne justement, sur la Tardoire également, sur le Bandia, mais surtout sur la Dronne, où j'ai un souvenir particulier de découverte du Saut du Chalard. J'ai dû moi-même marcher sur ces fameuses moules, dont on parlera un petit peu plus tard. Et j'ai pêché ma première truite fario au Saut du Chalard. Mon père est un pêcheur, il est toujours pêcheur. Et il m'a sans doute donné le goût de la transmission aussi, de la pédagogie. C'est un pédagogue et on profitait à chaque fois de ces moments-là pour découvrir la nature, même s'il n'y avait pas cette notion d'écologie, il ne me transmettait pas ça, les bienfaits de la nature, mais simplement avoir envie de la découvrir, la curiosité. Et c'est ce qu'on essaye de faire au CPIE finalement, c'est ça, c'est éveiller la curiosité.
Reclus, il n'aurait pas été contre la pisciculture. Il aimait bien un de ses copains, enfin il se bagarrait parfois avec lui, qui lui faisait visiter les moulins. Alors il y avait des forges, il y avait des moulins.
Oui, tout.
Il y a toujours des moulins.
La rivière Dronne, comme la plupart des rivières en France, peut-être à l'exception de certaines rivières de haute montagne, de torrents de haute montagne. Mais la Dronne, sur sa partie torrentielle, pourtant, c'est la partie, la source est à 500 mètres d'altitude, donc il y a des chaos granitiques, on a une végétation importante. N'empêche qu'elle a été colonisée très très tôt, depuis le 10e siècle, 11e siècle. On a des moulins, on a des forges. Il y a 6 forges qui ont produit, pour certaines, les canons de l'Hermione pour Rochefort. On est le lieu de production de ces forges. Ça a été mon travail, c'est encore mon travail actuel. Là, au CPIE, on travaille sur cette archéologie naturelle, les ressources naturelles. L'énergie est c'est pas nouveau, l'énergie hydraulique, on l'a toujours utilisée. Et cette Dronne-là, le Bandia, en moyenne, tous les 800 mètres autour de notre tronc, il y avait un moulin, donc un bief, donc un aménagement. La Dronne n'a rien de naturel aujourd'hui.
Mais dites-moi, vous étiez attiré par le danger que présente pour un enfant le moulin, comme vous étiez attiré par le danger de la grotte?
Par la technique, par les hommes qui, déjà, j'ai des souvenirs d'avoir été attiré par pourquoi on a fait ça, pourquoi le barrage? Pourquoi la pérade, on appelle ça les pérades, les barrages de pierre, assez simples. Puis la roue, c'est toujours magique de voir une roue tourner. Et puis après, la production, qu'est-ce qu'on y faisait? Voilà, c'est naturellement, on s'intéresse à l'usage qu'on faisait de cette eau qui n'était pas simplement un lieu de baignade ou de pêche.
Vous interdiez, c'est à l'âne philosophe, je cite Reclus, ployant sous le fardeau des sacs quand est chargé près de la meule, et tout aussi bien au meunier lui-même, à la longue blouse enfarinée. Témoignage d'une fille de meunier, elle s'appelle Gisette Clonière. C'était en 1988, les moulins étaient déjà transformés, leur activité première ayant été abandonnée.
La roue du moulin n'a pas d'âge parce que elle est toujours refaite par petits bouts. Tout est relié par transmission et courroie. Tout, absolument tout, marche à l'eau. Pour être meunier, faut être né dans un moulin. Sinon, on n'a pas d'oreille, on n'est pas un vrai meunier. Robert choisissait son blé. Rien qu'en le mastiquant, il connaissait le taux de gluten, il savait la force du blé. C'est tout un art, il n'avait pas besoin de laboratoire, il savait ça. Il se jetait du blé dans la bouche, il mastiquait. Il aimait bien dire « un moulin qui tourne pas, c'est comme un bal sans musique ». Maintenant, la roue du moulin tourne encore assez souvent, pour le plaisir. Et puis, je vis de mes souvenirs.
Les pieds dans le ruisseau, moi je regarde couler la vie. Les pieds dans le ruisseau, moi je regarde sans dire un mot. Les gentils poissons me comptent leur vie en faisant des ronds sur l'onde jolie, et moi je réponds en gravant dans l'eau des mots, jolis mots, mots de ma façon. Les pieds dans le ruisseau, moi je regarde couler la vie. Les pieds dans le ruisseau, moi je regarde sans dire un mot.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Les rivières ont une histoire. Nous parlons aujourd'hui de la Drône avec Christian Magne, ethnologue, animateur du CPIE.
Centre permanent d'initiative pour l'environnement.
Oui, parce que maintenant, nous entrons dans le nouveau millénaire. Nous passons l'an 2000 et ça va être sacrément technique à partir de cet instant. Il y a de nouveaux acteurs. PNR.
Parc naturel régional.
Ah, donc c'est près de 80 communes, 4 régions,
oui,
non?
C'est ça, ouais. C'est sûr. Aujourd'hui, c'est en Nouvelle-Aquitaine, mais autrefois, ça c'était basé sur deux régions, le Limousin et l'Aquitaine.
Et une des idées, peut-être la priorité du PNR, c'est l'eau. Agences de bassin qui vont devenir agences de l'eau à la suite de la DCE de l'an 2000.
Directive cadre sur l'eau.
Européenne.
C'est un jargon, un peu complexe. Hein. Il faut être un peu du milieu, du domaine, pour connaître tout ça. Mais c'est important parce que ça peut changer beaucoup de choses, y compris le paysage de nos régions.
Alors, les agences de bassin ont servi de modèle pour les institutions européennes. Les lois sur l'eau françaises ont aussi servi peut-être de modèle. Les lois sur l'eau françaises ont été transformées par la DCE et vous relevez maintenant d'une agence de l'eau, une des 6 qui existent en France et qui est basée à Toulouse. Acteur nouveau, Margaritifera.
La fameuse,
vous en parliez tout à l'heure.
La fameuse mulette.
Ah, c'est mieux de dire mulette que moule-perlière.
Oui, mulette ici. Oui.
Ouais. Et c'est avec des perles issues des rivières que Marine Médicis pouvait arborer une robe extraordinaire avec des milliers de perles. Ouais. Mais maintenant, il faut qu'on essaye d'expliquer comment de la moule perlière on peut passer à la perle. Et puis, il faut un truchement. Alors, je vous propose de le faire sous forme de jeu. Le PNR, Parc Naturel Régional de Périgord-Limousin, on a conçu un. Il y a une ferme aquacole maintenant sur la Drôme avec des bébés moules qui ne sont pas comme ça jetés dans la nature. Non, non, il y a tout un processus.
3, 2, 1...
Le but de ce jeu est d'aider ta moule à se reproduire. Notre moule ne peut pas se déplacer pour aller à la rencontre d'un mâle afin de féconder ses œufs. Sa vitesse olympique étant du 7 cm par heure. C'est le courant qui va transporter les spermatozoïdes libérés par le mâle situés en amont. Attention, c'est parti! Bravo! Ta moule a réussi à capter les spermatozoïdes libérés dans l'eau de la rivière. Tu accèdes au niveau 2. Les œufs que ta moule contient dans sa coquille vont maintenant pouvoir être fécondés puis se transformer en larves que l'on nomme glauquidies. Bientôt, elle va libérer ses larves. Pour survivre, il faut que tes glauquidies trouvent refuge dans un poisson. Mais pas n'importe quel poisson. À toi de jouer! Bravo! Tes glauquidies ont claqué du bec et se sont fixées sur les branchies d'une truite Fario. Tu accèdes au niveau 3.
3, 2, 1.
Au terme de 6 semaines, ta glauquidie se transforme en moule perlière miniature. Bravo! Tu accèdes au niveau 4. La jeune moule perlière sort de la truite et dévale le courant puis descend progressivement vers le fond de la rivière. Où va-t-elle tomber? Elle échoue sur de fins graviers. Bravo! C'est ici qu'elle va pouvoir s'enfoncer à environ 10 cm, puis se nourrir dans ce lieu correctement oxygéné. Tu accèdes au niveau 5. À elle seule, ta moule perlière filtre 50 litres d'eau par jour, qui ressortent débarrassées de presque toutes leurs impuretés. Et la moule perlière vécue heureuse dans les eaux claires. Tu as gagné!
Dans les eaux claires de la Drône, parce que la Drône a un avantage au départ dans ce jeu qui consiste à permettre la survie de la moule perlière. C'est peut-être le meilleur conservatoire qui y est encore en France.
Il y en a d'autres en France, hein, mais c'est vrai qu'on...
J'en recommande un à Nicolas Hulot. Il y a deux rivières là, qui sont toutes proches de Saint-Lunaire, où il va se réfugier maintenant toute la semaine, et où il y a encore des possibilités de sauver la moule perlière. Mais quand même, la Drône, c'est mieux.
Alors, la Drône, elle est, c'est vrai qu'elle a, cet avantage. On a recensé 15 000 moules perlières dans les années 2003. Donc, c'est un lieu, c'est vrai, encore riche en moules, mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait autrefois. Hein. On en a perdu 99%. Donc, c'est un vrai problème, puisqu'à une époque, elle s'était pêchée de façon assez commune. Il fallait, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, une moule sur mille, quasiment, pour arriver à trouver une perle. Donc c'était assez destructeur.
Alors Gilbert Cochet repère la présence de la moule perlière, commence à meuter le parc naturel régional, qui va monter une collaboration avec un laboratoire de l'université de Bordeaux et décrocher des financements européens afin d'assurer la survie et le développement de la moule perlière. Il y a un programme là, européen.
Programme LIFE qui, pour lequel 6 millions d'euros ont été découverts. Et c'est là où le débat commence.
6 millions, c'est pas rien pour votre région, qui n'est pas une des plus riches de France.
Non, c'est pas rien. Surtout que quand on essaie de prôner de l'éducation, de la sensibilisation à l'environnement, et on a du mal à trouver 10 000 euros ou 15 000 euros, on a été un petit peu au départ choqués, comme tout le monde, comme beaucoup de gens autour. Mais, en effet, c'est une espèce emblématique. Il y a quelques années, on avait travaillé sur la loutre, avec succès, puisque les loutres, maintenant, se sont redéveloppées sur cette région. On pense que c'est nécessaire, il est vraiment nécessaire de sauver cette moule. Mais à quel prix? Et là où le débat s'envenime un petit peu depuis quelques semaines, c'est que on est en train de vouloir, on a commencé d'ailleurs, à détruire les barrages des anciens moulins. Et là, tout le monde n'est pas d'accord.
Alors, les barrages sont à raser parce qu'on leur reproche d'être un frein à la libre circulation du vecteur, la truite Fario, et puis aussi à entretenir des eaux vaseuses, stagnantes.
C'est ça, en amont du barrage, il y a la sédimentation qui arrive, enfin des sédiments, hein, donc ça fait des couches comme ça de vases qui empêchent le développement de la moule. Il y a le problème de la truite Fario, il y a aussi le problème du réchauffement de ces eaux un peu plus stagnantes qu'ailleurs. Mais pour nous, c'est peut-être pas la principale cause de la disparition de ces moules. La principale cause, c'est quand même essentiellement les pesticides, les nitrates, notamment parce qu'on sait que la moule ne peut se développer que si le pourcentage par litre d'eau est inférieur à 1%. Donc ça veut dire que là, on a un souci agricole, clairement. On a des soucis de surfréquentation de certaines zones. Bon, Mais il y a aussi, alors en effet, il y a aussi ce problème de réchauffement climatique, hein, plus global. Il faut lutter. Nicolas Hulot a tenté, on a vu ce que ça a donné. Mais
les étangs sont aussi appelés à disparaître parce qu'ils participent à ce réchauffement.
Le parc naturel régional a un programme d'effacement. Alors c'est des jolis mots pour dire de destruction, hein, de suppression de ces étangs. Alors c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup dans les années, à partir des années 50, après-guerre, hein, des étangs de plaisance. Le problème, c'est qu'on supprime aussi des étangs qui ont 500, 600, 700 ans d'âge, comme ces moulins, hein, qui sont du 11e, 12e siècle, avec un travail archéologique, hein, qui est fait rapidement avant destruction. Nous, on est plutôt pour une option plutôt coup par coup, et on a peur un petit peu d'aller un peu trop vite, de regretter un jour cet acte-là.
Il y a une vingtaine de barrages qui témoignent d'une histoire industrielle. D'une histoire industrielle effacée. D'une histoire industrielle qui, d'une certaine manière, pourrait rebondir, parce que il faut aussi des énergies alternatives. Et on peut produire de l'électricité avec les moulins.
Étonnamment, c'est un sujet qui n'intéresse pas trop nos élus, on va dire, globalement, et nos techniciens. Pourtant, nous pensons qu'il y a une potentialité là, c'est-à-dire qu'en gardant les biefs, en gardant certains barrages, voire en les diminuant, hein, pour éviter justement cet envasement, ou en les entretenant mieux, parce qu'il faut dire aussi qu'autrefois les biefs étaient très entretenus, hein, par les meuniers, mais la loi sur l'eau a interdit de relâcher les sédiments. Enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. On peut plus ouvrir les barrages. On peut avec le risque de lâcher trop de sédiments. Donc du coup, les sédiments s'accumulent encore plus. Du coup, on les détruit, comme ça, on n'a plus ce problème-là. On évite des problèmes par des solutions radicales. Or, en effet, c'est peut-être un avenir. L'hydroélectricité, les micro-turbines toutes petites, en faisant pas n'importe quoi. Mais on pense qu'il y a, en tous les cas, matière à réflexion pour pas regretter faire cette action-là.
Mais alors, dites-moi, le mouvement associatif dans le monde des moulins, il est très ancien. Il a été parfois fragmenté. Le lobby des moulins, alors? Comment agit-il le lobby des moulins?
S'il y avait un lobby à ce niveau-là, ça se saurait. Non. Il y a certains producteurs d'électricité qui, évidemment, eux, ont un intérêt économique. Là, on est sur des intérêts plutôt privé, hein, de l'ordre de la micro-turbine qui va permettre l'électricité de 2-3 maisons, c'est pas ça. Non, ce qui nous gêne plus, c'est plutôt la perte en termes de paysage, de moulins qui font partie de l'histoire. Et c'est toujours, comme disait Nicolas Hulot justement sur votre antenne hier, c'est un pas plus un pas plus un pas. Si on peut éviter à certains meuniers et voisins de ces meuniers d'acheter de l'électricité nucléaire, c'est peut-être déjà un premier pas. Et puis c'est aussi une histoire qui peut disparaître, et là on n'est pas d'accord, alors que le CPIE défend par ailleurs la moule perlière, évidemment, et l'écologie.
Parce qu'au milieu de ce monde des plantes, frémit le monde sans fin des animaux. Écrit Élisée Reclus, la vie est partout. Quant à moi, je voudrais bien faire avec tous bon ménage. Je tâche de respecter la fleur et l'insecte, et pourtant que de massacre je fais sans m'en apercevoir. Et suit un chapitre d'éloge du moulin. Parce qu'il essayait de faire tout tenir en même temps. Je vous recommande l'histoire d'un ruisseau d'Élisée Reclus. Merci à vous, Christian Magne, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, Audrey Ribouille. L'équipe de La Marche de l'Histoire avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas.